Merci d'écouter Radio Kapi. Il est 8h à Indjolor dans l'Équateur, 1h de plus à Imbokolo dans la Grande Orientale. Le journal.
Radio Kapi.
Présenté par Béinda Bosuma, voici le sommaire. Une ou des mains noires seraient derrière le conflit Mbole-Lengola-Kumu et consorts dans la province de la Tchopo. C'est l'interprétation de Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kisangani. Marcel Outembi l'a déclaré hier au cours d'un point de presse à Kisangani. Il demande aux gouvernants de bien circonscrire le problème et y trouver des solutions durables. Ouf de soulagement pour les médecins et les malades à Kinshasa notamment. Les infirmiers du secteur public ont repris le travail cette semaine après plus de 2 mois de grève. Ils disent avoir obtenu en grande partie des réponses à leurs revendications. Et puis, l'invité de ce matin, Major Hassan Keira, porte-parole militaire de la MONUSCO. Il revient sur l'opération Springbok lancée par la mission onusienne pour protéger Goma et Sake. Il nous présente également la situation sécuritaire qui a prévalu récemment en Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. Dans la province de la Tchopo, ce qui se passe actuellement dans le conflit qui oppose un groupe de personnes issues des communautés, notamment Mbole, Lengola, Kumu et consorts, est le fruit d'une manipulation. Une main ou des mains noires seraient derrière ce conflit. C'est en tout cas l'interprétation des faits de Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kisangani par rapport à ce conflit qui semble s'étendre dans d'autres zones de la ville. Monseigneur Marcel Outembi Tapa l'a déclaré vendredi au cours d'un point de presse. Il demande aux autorités de chercher à comprendre le problème et y trouver des solutions durables. Le compte-rendu de Jacques Moukonkolé.
Monseigneur Marcel Outembi rappelle que les deux communautés à l'origine du conflit ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des lustres. Difficile de comprendre que subitement ils deviennent aujourd'hui des ennemis jurés. Il demande aux gouvernants de circonscrire le problème afin de mettre un terme à ce carnage. Par ailleurs, l'archevêque de Kisangani interpelle les communautés en conflit.
J'invite les membres de toutes les communautés impliquées à ne pas céder à la manipulation et à préserver la paix et l'harmonie qui les ont toujours caractérisés depuis des décennies, voire des siècles. Vous êtes tous frères, fils et filles du même Père Céleste, Dieu. La vie est sacrée, la vôtre et celle des autres. Apprenez à préserver la vie. Le pardon et la réconciliation sont possibles en temps de conflit. Vos ancêtres nous l'ont démontré.
Monseigneur Marcel Outembi en appelle également aux filles et fils de la province de la Tchopo, qu'ils soient à Kisangani ou à Kinshasa, à se mobiliser pour éteindre l'incendie qui embrase cette juridiction. La recherche des causes et l'établissement des responsabilités peuvent intervenir ultérieurement, souligne le prélat. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Par ailleurs, la société civile du Nord et Sud Kivu, réunie pour évaluer la situation sécuritaire à la suite de la guerre du M23, récuse le cessez-le-feu observé par les FARDC et annonce des actions de pression jusqu'au rétablissement de la paix et la sécurité dans la région. Dans une déclaration rendue publique vendredi à Goma, ces deux structures citoyennes dénoncent une attitude qualifiée d'ambiguë affichée par le gouvernement et la communauté internationale face à cette situation qui se détériore davantage. Un extrait de cette déclaration lu par Adrien Zawadi, président de la société civile du Sud Kivu, au micro de Sifa Maguro.
Récusons l'observance du cessez-le-feu par les FARDC devant un ennemi qui foule aux pieds toutes les décisions régionales et internationales et devant les avancées cruelles du M23 RDF, allant jusqu'à tirer mortellement sur les troupes burundaises des forces de l'EAC et les déloger de leurs bases de Kichanga, Mwenso et dans les petits Masisi Kiroluire. Nous regrettons et dénonçons le silence de toutes les parties prenantes devant cet acte d'atteinte à la paix. Après plusieurs années d'affrontements avec ces terroristes soutenus par les mêmes pays, le Rwanda et l'Ouganda, nous devrions tirer des leçons sur les plans militaires, diplomatiques et politiques et sortir notre pays de sa naïveté.
Pendant ce temps, l'Ituri dispose désormais d'un plan d'engagement des autorités locales pour appuyer le programme DDRCS dans la réinsertion des ex-combattants dans les zones prioritaires. Il a été adopté mercredi au cours d'un forum de 2 jours sur les projets pilotes à exécuter. Ce plan entre dans le cadre des stratégies nationales du processus de consolidation de la paix, de réconciliation et de reconstruction socio-économique de cette province. Il a été rendu public hier à Bunia. Reportage de Martial Kizabiamungu.
Ce plan consiste à encourager les dialogues francs et sincères entre les communautés à conflit, sensibiliser les jeunes à haut risque à adhérer au programme de DRCS, tout en organisant des activités de rapprochement socio-communautaire, notamment le sport, loisirs et les marchés communs. Pour l'administrateur intérimaire territoire du Romou, le colonel Maxime Chichimi, qui a présidé ces assises, celle la sensibilisation reste un outil très important pour l'aboutissement de ces processus de paix. Catherine Machozi, coordonnatrice de l'organisation ACIAR, l'une des facilitatrices, rappelle que cet engagement ne se limitera pas seulement aux projets pilotes, mais il va s'étendre à d'autres initiatives de paix. Les chefs coutumiers ont promis leur implication directe pour matérialiser leur volonté de contribuer à la pacification de l'Ituri par la démobilisation de tous les groupes armés. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, à Kinshasa, reprise du travail cette semaine par les infirmiers du secteur public, une reprise encore timide qui intervient après plus de 2 mois de grève, quoique mécontent du non-respect de l'accord de Mboudi par le gouvernement, nous avons toutefois obtenu des réponses à 2 des 3 revendications de la grève. La dernière est en cours de traitement, nous dit Jean-Fidèle Boyo, coordonnateur national de l'intersyndicale de la santé. C'est un ouf de soulagement pour tant pour les médecins que pour les malades, comme nous le dit Merveille Hassani dans ce reportage.
Dans le couloir de plusieurs hôpitaux publics, les infirmiers sont à nouveau visibles. Il est vrai que ce n'est pas encore l'afflux habituel, mais au moins on en voit en train de travailler. Chaque jour qui passe, le nombre augmente. Que ce soit à l'hôpital général de référence de Kinshasa, à l'hôpital et à la maternité de Kitambo, à la clinique Ngaliema ou au CNPP, la pression baisse, nous disent le médecin, docteur Brigitte Toupela. Médecin directeur à la maternité de Kitambo, salue cette reprise.
Chacun a son rôle à jouer. Nous ne pouvons qu'être satisfait parce que là, tout le monde est à son poste et le travail peut se faire normalement. Faire 2 mois avec un groupe de services manquants, c'est paralyser beaucoup de choses.
Charlie, la trentaine révolue, infirmière à la maternité de Kitambo, s'est dit heureuse de retrouver son poste.
Je suis responsable à la CPN et il y a 2 mois qu'on était en grève. On a repris depuis le 6 novembre 2023. Toutes les activités sont en marche maintenant. Il y avait l'ajout des 3 mois qu'on nous avait promis et on a donné ça à tous les infirmiers.
Un grand soulagement aussi pour le malade et nous-mêmes, nous dit cette jeune dame, garde malade au CNPP. Donner des médicaments à nos malades ici n'est pas toujours une tâche facile, ajoute-t-elle.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Le gouverneur intérimaire a lancé l'opération de contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'État dans cette province. Selon Afani Idrissa Mangala, cette opération vise à mettre de l'ordre dans le secteur de la fonction publique. Il explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de lancer officiellement l'enregistrement et l'identification des agents de la fonction publique et au finish leur octroyer une carte biométrique. Je félicite en passant le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique et aussi les chefs de gouvernement, sans oublier le premier citoyen de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu mettre de l'ordre dans le secteur de la fonction publique. Comme vous le savez, ça fait longtemps que la fonction publique, l'effectif n'était pas maîtrisé et il y avait des matricules corrompus. Les gens étaient enregistrés dans différents numéros matricules, mais aujourd'hui nous venons de lancer cette opération. C'est pour mettre de l'ordre et identifier chaque personnel de la fonction publique. Et c'est un pari gagné. Et cet enregistrement biométrique n'est pas payable. Même la fiche là d'identification n'est pas payable. C'est pourquoi nous lançons une mise en garde à tous les chefs de division. Tout celui qui se mettra à marchander cette opération, il sera passible d'une sanction disciplinaire.
Et en marge des élections de décembre prochain, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC a organisé hier vendredi à Kinshasa, à l'hôtel Kempinski, le tirage au sort pour le calendrier des enregistrements et des diffusions des émissions des candidats présidents de la République. Dans son allocution, le président du CESAC, Christian Bossembe, a précisé que parmi les questions qui seront posées aux candidats figurent plusieurs thèmes, notamment la politique internationale, l'économie, la justice, la sécurité ainsi que la promotion de la femme et de l'enfant. Une dizaine des journalistes de plusieurs médias ont été sélectionnés et il a été précisé que les candidats pourront se faire représenter. Journaliste en danger, GED dénonce l'arrestation de Raphaël Ngoma Mabonzo, journaliste à la radio communautaire de Mwanda, une station émettant dans la ville côtière de Mwanda dans le Congo central. Ce dernier a passé sa première nuit de détention au cachot du parquet du tribunal de paix de Mwanda. Bien avant son arrestation jeudi, le journaliste avait été auditionné et entendu sur procès verbal par l'Agence nationale des renseignements ANER qui a transmis son dossier au parquet. Selon des informations recueillies par GED, Raphaël Ngoma est accusé par l'administrateur de Mwanda, Madame Amina Panda, d'avoir diffusé une fausse information sur l'interdiction d'un meeting prévu par le candidat président de la République, Matata Ponyo. Une information qui a été démentie quelques heures après par le journaliste lui-même, après un appel et des menaces reçues de la part de l'administrateur. Plus de détails avec Alain Rongmochinch.
Joint par le correspondant de GED sur place, le journaliste explique que dans mon article publié dans les réseaux sociaux et sur les ondes de ma radio, je n'ai pas parlé de l'interdiction de ce meeting, mais plutôt que l'autorisation de ce meeting n'avait pas encore été notifiée aux organisateurs du dit meeting. Mais malgré cela, l'administrateur m'a appelé pour me menacer en me disant que je dois faire attention à ma vie. Je dénonce ces menaces de mort ainsi que la tentative d'instrumentalisation de la justice et des services de sécurité qui sont sous son autorité, a déclaré le journaliste. Journaliste en danger dénonce également cette arrestation et rappelle qu'au terme de la nouvelle loi sur la presse en RDC, la publication par le média d'un droit de réponse équivaut à la réparation pour la personne qui s'estime lésée par un article de presse. GED demande au tribunal de paix de Mwanda de considérer cette plainte comme sans objet et d'ordonner la libération sans condition du journaliste Raphaël Ngoma Mabonzo.
Merci de nous recevoir dans le Lubero Nord Kivu. Une cinquantaine de femmes, leaders des associations féminines et candidates aux prochaines élections législatives, ont été formées jeudi sur le leadership et la gestion de la campagne électorale. Cette formation était organisée par la section genre de la MONUSCO en collaboration avec le bureau genre, famille et enfants de la ville de Beni. Objectif, renforcer les capacités de ces femmes dans la mise en œuvre des stratégies pouvant leur permettre de réussir la campagne électorale. Madame Ruth Sabouni, chef de bureau genre, famille et enfants à Béniville, explique au micro de Marc Marofimbo.
C'est dans le cadre de renforcement des capacités, mais aussi des transferts de compétences au niveau des services étatiques. Comme vous le savez, dans quelques matins, c'est la campagne qui va commencer. On est juste venu éveiller certaines choses pour qu'elles puissent bien planifier leur campagne dans les quelques matins qui viennent pour qu'elles se lancent en état bien outillé dans la communauté. Par rapport à d'autres élections, les femmes se sont présentées vraiment à bon nombre. Ça, c'est déjà épat parce que dans les élections passées, il y avait un défi, la non-présentation des femmes d'abord. Mais comme on a eu à étudier comment pallier à ces défis, on a renforcé quand même la capacité des femmes. Les femmes ont été formées et informées. Et avec cette détermination, la collaboration aussi qu'elles manifestent, nous osons croire qu'avec la bonne planification qu'elles vont faire au cours de cette campagne, nous allons convaincre cette communauté pour que les femmes soient élues.
Au Congo central, en vue de contourner les problèmes liés à la traversée sur le fleuve Congo entre le territoire de Luozi et le reste de la province, problème dû aux pannes récurrentes du bac moteur de Luozi, l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante vient de mettre à la disposition du secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo central un canon rapide. Selon Bernardine Kitondo, secrétaire exécutif provincial de la CENI Congo central, cela vient faciliter les déploiements des kits électoraux ainsi que les agents dans les sites de vote situés au bord du fleuve et dans les îlots. Le point avec Nana Plurich Mambo.
C'est ce vendredi que les canaux rapides ayant une capacité de 22 places assises est arrivé au beach de Luozi. Cet engin flottant vient résoudre les problèmes récurrents du bac moteur de Luozi pour enfin faciliter les opérations, non seulement celles du déploiement des matériels et agents électoraux, mais également celle des phases restantes du processus électoral, pour ainsi maintenir une communication ponctuelle entre l'antenne CENI de Luozi et le secrétariat exécutif provincial de la CENI. Signalons qu'au mois d'août dernier, alors que la traversée sur le fleuve était en arrêt à cause d'une panne sur les deux moteurs du bac, les dossiers des candidats aux élections législatives nationales déposés à l'antenne de la CENI du territoire de Luozi avaient été expédiés au secrétariat exécutif provincial à Matadi par pirogue, avec tous les risques de chavirement. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Un peu plus de 6 millions d'euros ont été crédités pour restituer aux populations des avoirs saisis, notamment en Guinée équatoriale. Pour la première fois, le budget de l'État français prévoit des crédits pour restituer aux populations des avoirs saisis dans les affaires dites de biens mal acquis des dirigeants étrangers, concrétisant un mécanisme voté en 2021 dans un document annexé au projet de loi des finances 2024. Le gouvernement français flèche 6,1 millions d'euros pour la restitution des biens mal acquis au pays d'origine de ces fonds spoliés. La ligne budgétaire existait depuis le budget 2022, mais restait vide jusqu'ici.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons ce matin le porte-parole militaire de la MONUSCO, Major Hassan Keïra. Il revient sur l'opération Springbok lancée par la mission onusienne visant à assurer la protection de la ville de Goma et la cité de Sake. L'officier de la MONUSCO nous présente également la situation sécuritaire qui a prévalu la semaine en Ituri, mais aussi les actions menées par les casques bleus pour protéger la population. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Major Hassan Keïra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes officier au bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO. La MONUSCO a lancé l'opération Springbok visant à assurer une protection optimale de la ville de Goma et de Sake. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte cette opération s'inscrit et nous décrire un peu son déroulement?
La situation sécuritaire actuelle et les combats entre les groupes armés locaux et le M23 dans les régions de Kichanga, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo ont entraîné des pertes en vie humaine, des déplacements et des dommages à la majorité de la population civile. La MONUSCO, en collaboration avec le gouvernement de la RTC et conformément à son mandat, a soutenu les FARDC dans la recherche de la paix dans la région et surtout dans la protection des civils à tout prix. Le M23 a progressé vers le sud en direction de Sake et Goma, ce qui a conduit la MONUSCO à lancer l'opération Springbok. L'objectif principal de cette opération conjointe entre la MONUSCO et les FARDC est la protection des citoyens de Goma. Goma est le plus grand centre de population de l'est de la RDC avec beaucoup de camps de personnes déplacées. Nous avons déjà déployé nos troupes sur le terrain et elles sont prêtes à stopper toute tentative d'invasion de Goma. Il s'agit d'une position défensive et la MONUSCO est prête à intervenir si nos forces sont engagées par un groupe armé illégal qui tente d'entrer dans Sake ou Goma. De même, si les FARDC demandent notre soutien ou elles sont attaquées, la MONUSCO est prête à fournir le soutien.
Parlons de l'Ituri. Les groupes armés Codeco continuent à commettre des actions malicieuses dans cette partie. Quelle est la situation?
Le 29 octobre dernier, trois individus armés de machettes ont semé la panique au village de Chubert. Du coup, la MONUSCO a envoyé une patrouille des soldats de la paix du Bangladesh pour dominer et assurer la protection des civils dans cette zone. Aussi, le réseau d'alerte communautaire a reçu une information concernant une incursion par le groupe armé Codeco le 3 novembre dernier, au niveau de Blokwa, où ces mercenaires ont attaqué des personnes civiles et tiré plusieurs coups de feu. Ces personnes ont réussi à s'enfuir et ils ont rapporté cet incident aux dirigeants des personnes déplacées internes de Rau. Le bataillon Bangladesh du déploiement rapide de la MONUSCO a envoyé sur le champ une patrouille pour dominer l'axe Blokwa au Kapidjissa. De ce fait, la situation sécuritaire est calme et normale. Aussi, le 4 novembre dernier, le Banardébé de la MONUSCO a envoyé une patrouille pour dominer l'axe Djissa-Larue en réponse à une alerte concernant une probable agression par le groupe armé Codeco dans cette région. La MONUSCO a également partagé cette information avec les FARDC de Massombouko et a sensibilisé le réseau d'alerte communautaire pour la protection des civils. Et durant cette opération, des tirs ont été entendus à partir du sud-ouest vers la direction de Djissa-Okapi. La patrouille de la MONUSCO s'est rendue en compagnie des FARDC sur les lieux pour mettre fin à la confrontation entre les groupes armés Zaïre et Codeco en tirant des coups de semence. La patrouille a ensuite dominé les zones environnantes de Blokwa, Djissa-Okapi et l'Arc Bazar pendant toute la nuit.
La MONUSCO travaille en collaboration avec les FARDC pour contrer les groupes armés comme ce qui se passe en territoire des Djougou. Alors, quelle a été la réaction des casques bleus?
Justement, le 8 novembre dernier, la base opérationnelle permanente de la MONUSCO à Fataki, située à 12 km au nord-est de Djougou, a été informée de la présence de nombreux combattants du groupe armé Codeco dans la région de Lébi, à 20 km au nord-est de Djougou. Et des échanges de tirs en cours entre le groupe armé et les soldats des FARDC. En réponse à cette information, la base de Fataki a envoyé une patrouille dans la région de Lébi. Là, la patrouille a observé des mouvements des individus du Codeco sur une colline située à environ 300 mètres au nord-ouest du camp de Fardessé à Libye, qui était en état d'alerte. Et les Fardessé ont informé la MONUSCO que ces milices se dirigeaient vers le marché de Libye ont demandé à la MONUSCO de mener une patrouille conjointe dans cette zone. Alors que les troupes de la MONUSCO et les Fardessé s'approchaient du marché de Libye, les malfaiteurs ont ouvert le feu sur nos militaires. En réponse à cette agression, les soldats de la MONUSCO et les Fardessé ont tiré à leur tour sur les milices de la CODECO. En conséquence, les assaillants ont quitté la zone et se sont dirigés vers le nord, incendiant certaines maisons précédemment libérées.
Major Hassan Keïra, merci pour ce point sur la situation sécuritaire.
Notre invité répondait aux questions de Sifa Maguru. Par ici prend fin ce journal. Merci de votre attention.